Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis très heureux que vous soyez avec moi pour ce 10e numéro de la Casa des Babel. Et oui, déjà 10 numéros sur Cause Commune de la Casa des Babel. Cette émission prend son envol et on ne l'arrêtera plus. Cette semaine, 3 reportages. Nous commencerons par aller en Colombie pour parler d'un carnaval très spécial avec Camille Bouju. Nous continuerons ensuite avec un reportage qui n'est pas vraiment un reportage. Je parlerai plutôt de prose, vous verrez. C'est une prose, la prose d'un individu qui se perd dans la foule londonienne et qui réfléchit au mouvement incessant et à l'immensité de cette ville, qui s'y adapte et peu à peu qui commence à l'aimer. Et enfin, nous terminerons cette émission avec Valentine Bliguet au Liban, un reportage qui nous permettra de parler d'un projet d'économie sociale et solidaire porté notamment par des étudiants français à Beyrouth pour faire face à la crise des déchets que rencontre cette ville. Je vous propose de commencer dès maintenant l'émission avec le premier reportage. Il est signé Camille Bouju à Bogota pour Cause Commune.
Si je vous dis couleur, musique, euphorie et char, vous pensez bien sûr à un carnaval, n'est-ce pas? Mais pensez-vous au carnaval de Pasto? Eh bien, je fais le pari que non. Pourtant, ce dernier vaut le détour. Et pour sûr, puisqu'il figure sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2002. En effet, cette ville méconnue du sud de la Colombie qu'est Pasto accueille tous les ans depuis plus d'un siècle le carnaval des Noirs et des Blancs et par là, des visiteurs du monde entier. Alors, vous l'aurez compris, ce samedi, je vais vous parler de Pasto et de son incroyable carnaval. Car plus qu'un simple carnaval, le carnaval de Pasto est le fruit d'un métissage entre plusieurs cultures et la représentation de plusieurs valeurs, de partage, de tolérance et d'égalité. L'histoire débute en 1607 lorsqu'un groupe d'esclaves noirs se rebelle contre sa condition dans la région du Nariño. Cette année-là, ils n'obtiennent rien, mais quelques années plus tard, c'est en souvenir de cet événement que d'autres esclaves protestent et réclament pacifiquement un jour libre. Suite à l'autorisation du roi d'Espagne, il est décrété que les esclaves jouiront d'un jour libre chaque 5 janvier. À cette nouvelle, les esclaves heureux sortirent jouer dans les rues en peignant les blancs avec de la peinture noire. Ainsi, le 5 janvier devint l'occasion pour les populations d'esclaves de sortir dans la rue, partager et célébrer leur culture, leur danse et leur musique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le jour du jeu des Noirs. L'origine du carnaval est ainsi associée à la liberté, à la joie et à la fierté des différentes communautés. Pourtant, ce n'est seulement qu'à partir des années 20 que le carnaval se développe réellement et qu'apparaissent les premiers chars, ainsi que le jour des Blancs pour faire écho au jour des Noirs. Puis dans les années 30, on ajoute au carnaval des manifestations artisanales et musicales. Chars, chorégraphies et déguisements deviennent à ce moment-là l'essence même du carnaval. Aujourd'hui, ce sont plus de 9800 artistes et artisans qui participent, dévouant tout leur temps à la préparation et à la réalisation de ce carnaval et qui ainsi célèbrent la beauté et la richesse du mélange entre la culture noire, la culture indigène et la culture hispanique. Mais le plus impressionnant demeure tout de même les défilés. Le premier a lieu le 31 décembre. Et les marionnettes représentent de façon ironique et critique les différents événements qui ont eu lieu au niveau local, national et international au cours de l'année. C'est une façon pour les pastosos de laisser derrière eux l'année qui vient de s'écouler. Le dernier défilé clôt majestueusement le carnaval, le 7 janvier. Lors de celui-ci, chars, danseurs et musiciens défilent sur plus de 7 km et pendant environ 6 heures. Les chars sont d'ailleurs évalués par des jurés qui nomment à la fin l'un d'entre eux comme étant le meilleur de l'année. Ce char élu reçoit par la suite une récompense économique en signe de gratification pour le travail effectué tout au long de l'année. Une façon pour l'État d'encourager artisans et artistes à perpétuer et à consolider cette si belle tradition dans toute son authenticité.
Merci à Camille Bouju pour cet excellent reportage, certainement la reporter la plus active de l'émission, et on la remercie encore. Tout de suite, nous allons marquer la première pause musicale de l'émission, et il faut que je vous raconte. Je suis moi-même en Erasmus, en Écosse, et un Erasmus, c'est d'abord beaucoup de rencontres. Des rencontres avec des personnes venant de divers horizons, et parfois de très très loin. L'une de ces dernières rencontres, c'est Jara, un Australien passionné de rock, et il m'a fait découvrir plusieurs groupes. Je me suis dit qu'ils étaient taillés sur mesure pour la Casa des Babels. Tout de suite, donc, la première pause musicale australienne, il y en aura une seconde, avec Dope Lemon, Home Soon.
Cause commune, cause-commune.fm 93.1.
I've been finding the time to be bought out of my mind. I've been walking for days. I don't have the time to play. You're kind of parlay. So won't you come home soon? Won't you come home soon? Never wish for you to go to roll down that old road. You're making my heart low, lost in that old world. You're the only one I'll ever fall. So won't you come home soon? Won't you come home soon? Won't you come home soon? Won't you come home soon?
Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm partout ailleurs. Vous venez d'écouter Home Soon de Dope Lemon. Dope Lemon, vous le connaissez peut-être sous un autre nom, celui de Angus Stone. Il a participé à un groupe avec sa sœur, un groupe du nom de Angus and Julia Stone. Nous allons maintenant passer au deuxième reportage de l'émission. Je n'ose l'appeler reportage car ce serait manquer de finesse. C'est un travail de prose, c'est un travail lyrique, un travail poétique. Je vous laisse avec Alexandre Butet. Je vous conseille juste de vous installer bien confortablement et de tendre l'oreille. Alexandre Butet, pour Cause Commune.
Arrivé à Londres dans la brume épaisse d'un été tirant sa révérence, mes valises à la main, je m'arrête dans une auberge ancrée au centre d'un petit parc, comme on en trouve souvent à travers les quartiers de la capitale. Lorsque je suis de sortie, je m'aventure autour des bourgs. Octobre file. Dans ces rues inconnues à mes souvenirs, je sens mon insouciance s'exaspérer dans la zizanie indécente de la danse des passants qui sans cesse se bouscule. Je suis rompu à la tranquillité de mon lieu natal et je marche sans but. Je suis perdu. Je m'arrête, mais le mouvement perdure. Je mets un pied devant l'autre et recommence, mais la cadence est plus intense, alors j'accélère le pas pour pouvoir prendre de l'envergure. Je cours. Je fonce après tout et n'importe quoi. Le métro va bientôt partir et le bus n'attend pas. Lyon me manque. Il manque au moins à mon esprit de se reposer, à mes yeux de regarder dans le vide. Un vide simple, au centre duquel je ne verrai pas une affiche, un poster, un building, un avion, un nuage ou encore un passant que j'aurais offensé en ne daignant pas me pousser. En effet, je ne me pousse pas. C'est eux que je pousse maintenant. Ils se trouvent trop souvent au milieu de mon pas, que j'ai eu trop de mal à adapter et que je ne veux plus perdre. Novembre se lasse et me laisse attendre dans le froid. Mon allure s'emballe et ma carrure se forge. Les visages ne me sont pas aimables, ils sont trop nombreux. Ils passent et ne repasseront pas, mais seront bien vite remplacés. À la place, j'en trouve certains qui me semblent plus familiers. Je rejoins leur rang, marche toujours en cadence, mais cette fois accompagné. Sur chacun de nos trajets, on se déplace en meute, on se construit des remparts, on se protège derrière et on se pare de hier. On ne veut plus perdre de temps à se laisser distraire. Au fil de nos détours, on commence à jeter des coups d'œil sur les lieux qui nous entourent. Nous qui marchions depuis si longtemps, on n'avait pas quitté des yeux nos pieds, et on découvrait désormais les grands bâtiments, les musées, galeries, les gares, les grandes rues et les briques rousses. La foule est toujours compacte, mais j'aperçois maintenant les singularités qui la forment. Les gens s'excusent, ils rigolent, ils remercient. Quelques étrangers s'entrechoquent et puis se parlent, quelques secondes, et puis s'en vont. Ils ne se reverront pas, mais pour une dizaine de secondes, ils ont ri ensemble. Ils ont tissé un lien dans l'étoffe froide, brodé par les passants. Décembre nous réserve un accueil chaleureux. Lorsque le froid nous ronge les doigts, on s'arrête là où on trouve de quoi les réchauffer. On enchaîne les bars, les pubs, les théâtres, les discothèques, les concerts. Les étapes de notre pèlerinage sont de plus en plus fréquentes et la ville commence à se mettre à nu pour nous montrer ses points d'accroche. Elle que j'avais d'abord défigurée par mon regard noir, je lui redonne des formes, des couleurs et j'y retrouve une nouvelle candeur. Janvier démarre sous les meilleurs auspices. Et voilà que le bilan de ces quelques mois se dresse en face de moi. Le miroir de mes remarques s'est déformé pour porter un œil doux sur la ville contre laquelle je m'insurgeais d'abord. La marche continue, mais elle ne se bat plus contre une masse d'individus. Elle en fait partie et avec elle, elle se marie. Et au milieu de mon séjour en territoire d'outre-Manche, j'appréhende d'avoir perdu la démarche flâneuse que j'avais avant d'arriver. Bientôt, je ferai demi-tour et reviendrai sur mes pas. Tous les nouveaux visages que j'ai croisés commenceront à se dissiper, mais ne s'effaceront pas. Alors pour l'instant, je les regarde, les imprime dans ma mémoire et continue ma route, au hasard de mes nombreux allers-retours.
Merci à Alexandre Butet. On a l'impression de mettre le pied à Londres sans jamais avoir à traverser la Manche, en écoutant sa voix, et il faut dire que c'est agréable. Tout de suite, la seconde pause musicale de l'émission. Toujours une pause musicale australienne, mais cette fois-ci avec Sticky Fingers, How to Fly.
Cause commune, cause-commune.fm 93.1.
Yeah. breaks the rule.
Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm, partout ailleurs. Vous venez d'écouter How to Fly des Sticky Fingers, un groupe australien que je vous conseille d'aller découvrir plus en profondeur sur Deezer, YouTube ou en achetant leurs albums, bien entendu. Tout de suite, le dernier reportage de ce numéro avec Valentine Bliguet qui, au Liban, a suivi un projet porté notamment par des étudiants français, un projet dit d'économie sociale et solidaire visant à travailler sur la problématique de la crise des déchets à Beyrouth. Valentine Bliguet pour Cause Commune.
Beyrouth est une ville étonnante, mais les surprises ne sont pas toujours de très bon goût. La visibilité des déchets notamment y est très importante. Le plastique, les poubelles, les objets en tout genre rythment les balades du dimanche. Et pour cause, la problématique des déchets au Liban demeure sans solution durable. En 2015, des manifestations éclatent dans la ville suite à la fermeture de la décharge de Naamé, qui accueillait les déchets de la ville et de ses environs. La fermeture avait entraîné l'entassement prolongé des déchets dans la ville pendant plusieurs semaines, alors que leur émission quotidienne à Beyrouth est estimée aux alentours de 450 tonnes. Les manifestations portées par divers groupes de la société civile, dont le collectif Vous Puez, ont fait remonter l'exaspération de la population face à la corruption des politiques et les mafias économiques. La crise des déchets est une incarnation parmi d'autres de la faiblesse des institutions libanaises. Depuis la guerre civile, le système de collecte des déchets a été affaibli par la destruction d'une partie des infrastructures. Toujours est-il, les dysfonctionnements tiennent en grande partie à l'incapacité des autorités libanaises à organiser de réels services publics, emportés dans des logiques confessionnelles qui poussent au clientélisme et qui laissent la porte ouverte aux mafias qui continuent d'organiser en grande partie la prise en charge des déchets. Suite aux manifestations de 2015, des mesures sont instaurées afin de répondre à la crise dans l'urgence. Des espaces sont aménagés pour stocker des tonnes de déchets produits quotidiennement. Il faut attendre 6 mois avant la mise en œuvre d'une solution temporaire proposant l'exportation des déchets. Abandonnée, cette solution est remplacée par la réouverture temporaire de centrales de collecte autour de Beyrouth. À terme, les autorités cherchent à faire accepter l'idée d'un programme d'incinération. Un programme qui jusqu'ici a été mis de côté dans un pays étroit où la technique aurait des répercussions désastreuses pour la santé des Libanais. Entre solutions temporaires d'enfouissement, d'exportation ou de collecte limitée des déchets et stratégie d'épuisement de la population afin d'imposer des solutions qui sont refusées depuis toujours, la recherche de solutions locales et durables n'a pas été abordée par les autorités. Face à cette désorganisation généralisée du système, quelques acteurs ont émergé pour tenter de remettre de l'ordre. On a vu émerger quelques organisations de la société civile. C'est notamment le cas d'Arc-en-Ciel, une organisation de l'économie sociale et solidaire qui, pour faire face à cette crise des déchets commencée en 2015, publie un guide de gestion des déchets pour les municipalités. Ce guide avait pour but d'aider les municipalités à gérer efficacement et durablement leurs déchets. Il s'agissait de former, de sensibiliser ces cadres pour mettre en œuvre leur propre centre de gestion des déchets. Je suis allée à la rencontre d'étudiants en master à Sciences Po Lyon qui ont intégré le master 2 de coopération et de développement au Moyen-Orient, CODEMO, et qui, à travers un programme nommé Process Méditerranée, ont collaboré avec l'ONG Arc-en-Ciel France. J'ai posé quelques questions à une des élèves du master qui m'a présenté l'association et qui m'a expliqué quels étaient les intérêts de l'économie sociale et solidaire dans des projets, notamment ceux qui concernent l'écologie et les déchets à Beyrouth.
Ils veulent donner un dernier avertissement au gouvernement. Environ 3000 personnes dans les rues de Beyrouth, au Liban, ils protestent contre l'incurie des dirigeants et la corruption. Au centre de leur mécontentement, la crise des déchets qui s'empile dans tout le Liban. Et pour cause, la fermeture en juillet 2015 de la plus grande décharge du pays. Depuis, le mouvement Vous Puez a permis de drainer de protestataires dans la rue. Cette fois, ils menacent de paralyser le pays.
Nous voulons dire aux déchets qui sont dans les ministères que nous allons rester dans la rue jusqu'à ce qu'ils partent, eux et les déchets. Nous n'allons pas faiblir, nous sommes dans la rue depuis 8 mois et ça va continuer.
Autour de Beyrouth, les poubelles forment des routes et des montagnes qui défigurent le paysage. Le gouvernement a annoncé samedi un plan sur 4 ans. La première étape est la réouverture de la décharge fermée l'année dernière, une mesure jusque-là très controversée.
Alors le programme Process Méditerranée, c'est un programme de coopération méditerranéenne en entrepreneuriat social qui a été créé en 2015 à l'initiative des étudiants participant au Master 2 CODEMO de Sciences Po Lyon. Les étudiants ont choisi de collaborer avec l'ONG Arc-en-Ciel France qui les encadre dans ce projet. C'est aussi le fruit d'une collaboration entre des partenaires tunisiens, français et libanais. Cette année, le projet s'intitule Beyrouth Habibti. Les étudiants ont choisi de se focaliser sur la thématique du développement durable et la gestion des déchets au Liban. Le projet est monté en amont par les jeunes qui récoltent les fonds nécessaires. Ils définissent aussi une stratégie de communication. Ils montent une campagne de financement participatif, etc. Arc-en-Ciel France, qui est donc notre partenaire en France, accompagne les jeunes dans toute la phase préparatoire au projet. Il s'agit d'encadrants, de professionnels dans le domaine de l'entrepreneuriat social qui nous apportent leur expertise sur le montage d'un projet de solidarité internationale. Ils sont aussi les référents qui nous permettent d'établir le contact et le partenariat avec Arc-en-Ciel, notre partenaire au Liban. Arc-en-Ciel Liban est une ONG majeure dans le tissu associatif libanais, notamment dans le secteur des déchets. Ils ont depuis quelques années développé une filière de recyclage et se positionnent en tant qu'acteurs majeurs dans le domaine. Dans le cas du Liban, où l'État est particulièrement absent, notamment dans le domaine de la gestion des déchets, qui est une prérogative publique par excellence, le secteur associatif et l'entrepreneuriat social dans le domaine a explosé, notamment après la crise des déchets de 2015. À partir de ce moment-là, ça a été un tournant pour la société civile libanaise dans le domaine du développement durable, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus compter sur l'État. Ils ont développé des stratégies de contournement de la puissance publique. Je ne saurais pas dire si ces initiatives sont temporaires ou si c'est pour pallier une absence temporaire de l'État, mais l'État ne représente pas l'intérêt général. Il ne serait pas vraiment souhaitable qu'ils reprennent en main la collecte et le traitement des déchets.
On comprend que l'absence de l'État libanais oblige les acteurs de la société civile à trouver des solutions alternatives. Pour autant, la question du remplacement et de la substitution de l'État par des entreprises et des acteurs de la société civile pour mener à bien des projets de services publics pose des questions, notamment sur les territoires où la puissance publique est très forte, comme en France.
Merci à Valentine Bliguet pour cet excellent reportage. Eh bien, vient maintenant le terme de ce 10e numéro de l'émission. Comme toujours, ça a été un plaisir pour moi de le présenter et j'espère que ça a été un plaisir pour vous de l'écouter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et bonne journée sur Cause Commune.
Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fm.